Voilà, alors, l'heure étant en train d'avancer, je pense qu'on peut commencer ce café scientifique. L'horloge neuchâteloise ci-dessus a de l'avance, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être si nombreux encore une fois pour ce café scientifique consacré à Internet, Internet l'indiscrète, avec ses regards pas toujours très bien intentionnés, avec ce monde de logiciels gratuits, soi-disant, et on va voir que la gratuité a un prix, un peu le pacte avec le diable peut-être, qui sont les Faust des temps modernes qui sont tellement intéressés à nos données privées. C'est ce qu'on va tenter ici d'aborder durant 7 h 30 de discussion. Je vous encourage vraiment à participer, puisque, comme c'est la tradition des cafés scientifiques, c'est avant tout le public qui doit mener le bal, et j'espère me faire aussi discret que possible. Je pense que nos intervenants seront vraiment à même de répondre à toutes ces interrogations. On a un florilège ici de spécialistes de la question, et qui plus est, de régionaux, d'audience mondiale, on peut le dire, puisque sur les 4 personnes ici présentes, 3 ont fait des études à Neuchâtel ou travaillent à Neuchâtel, à l'université de Neuchâtel. Et monsieur le préposé suppléant, le préposé fédéral suppléant à la protection des données, et lui, est un ancien de l'université de Fribourg. Voilà. Donc nous avons ici toutes les forces de l'arc jurassien et des voisins proches, ou des trois lacs, on peut dire plutôt comme ça, les forces des trois lacs réunies ici à Neuchâtel pour débattre d'une question de portée globale, mondiale, dans ce début du XXIe siècle. Alors, sans plus tarder, je vais faire un premier tour de table des invités à cette discussion. J'ai peut-être commencé par vous présenter les personnes ici. D'abord, Madame Elisa Gorla, qui a été nommée professeure de mathématiques à l'université de Neuchâtel et qui est une cryptographe et une spécialiste de sécurité informatique. Elle nous dira sans doute quelques mots de sa spécialité qui est en relation avec les grands nombres. Je laisse ça pour la suite. À côté d'elle, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur David Olivier Jacquet-Chiffel, qui est professeur en cybercriminalité et identité numérique. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux traces numériques qu'on laisse sur Internet, à notre insu, souvent. Et il nous a fait le plaisir de venir aussi un peu en voisin, mais il travaille à l'Université de Lausanne. Deuxième spécialiste de l'Université de Neuchâtel en activité, Étienne Rivière. Il est maître assistant à l'Institut d'informatique et c'est un spécialiste du, comme on dit en bon français, cloud computing, les stockages de données dématérialisées. Je pense que c'est comme ça qu'on le traduit dans un français encore plus obscur, parce que les nuages, c'est quand même plus poétique. Et enfin, Monsieur Jean-Philippe Walter, qui, malgré la sollicitation tardive, n'a pas hésité à dire oui et à venir ici pour représenter le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Lui est adjoint à ce service et il sera ici un peu notre garant juridique, notre référence juridique en la matière. Alors, l'actualité faisant encore une fois bien les choses, et je vous assure qu'on ne l'a pas fait exprès. La semaine dernière, le 28 février, s'est tenue la journée de la protection des données 2014. Et à Berne, justement, a été organisée sous la houlette du préposé fédéral à la transmission de données. C'est long, hein, quand même. Et à la transparence. On dira plus à ce titre. Il y avait donc un débat à Berne, sur la thématique suivante, vol de données et écoute téléphonique, notre sphère privée peut-elle encore être sauvée? Voilà qui nous rapproche bien évidemment du thème de ce soir. Ils nous ont volé la politesse, diable. Et ce qu'on a pu lire, un résumé de Hans-Peter Thür, qui est lui le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, il disait ceci. Chaque jour, des quantités de données inimaginables sont collectées, ce qui permet par des analyses et des mises en relation adaptées de prévoir le comportement d'une personne, carrément. Un analyste de données est ainsi en mesure, suivant les circonstances, d'en savoir davantage sur un individu que ce dernier n'en sait sur lui-même. Et ces données n'intéressent pas seulement les services secrets, loin de là, mais aussi les départements marketing, les assurances, les employeurs, les autorités fiscales, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, lancer cette discussion autour de cette thématique et avec cet argument-là de la problématique de Big Data, je donne donc la parole tout de suite au spécialiste en la matière, c'est-à-dire Étienne Rivière. Alors, est-ce que ce monde orwellien décrit par Hans-Peter Thur est bien celui dans lequel on vit? Et deuxième question, peut-être qu'on peut développer, encore plus intéressante, quel est le coût de ces opérations en termes de stockage? On parle aussi non seulement de coûts financiers, mais aussi de coûts énergétiques, parce que ça demande d'énormes serveurs. Et est-ce que cette exploitation de données privées, qui se fait un petit peu à l'aveugle, en vaut vraiment la chandelle? Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Rivière?
C'est à moi d'ouvrir le bal. Tout le monde m'entend ? Oui. Alors, il y a pas mal de questions dans la question. Est-ce qu'on vit dans un monde orwellien ? Alors, ça, je ne sais pas. C'est un peu philosophique. Peut-être qu'on pourra apporter une réponse à la fin du débat. Le coût du stockage des données, alors, il y a stockage des données personnelles, principalement, auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui. Il est important. Certes, en termes d'infrastructures, il est important en termes d'énergie pour supporter ces infrastructures. On va sans doute s'intéresser aussi pas mal au coût en termes d'impact sur la vie privée, sur le fichage qui peut être fait, etc. Alors le coût, il est important. On appelle le big data, alors encore un obscur anglicisme, qui est simplement le terme qui permet d'expliquer l'augmentation exponentielle de la quantité de données générées, stockés, traités, etc., par les systèmes informatiques. Alors, c'est accompagné aussi beaucoup de l'externalisation des services informatiques, ce qu'on appelle par le cloud computing ou informatique dématérialisée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des services qui sont supportés par des entreprises ou des institutions de façon centralisée dans leurs propres locaux avec leurs propres machines, on va avoir des grands centres de données qui vont être mis à disposition de prestataires informatiques, prestataires de cloud, qui vont servir à proposer ces services. Alors ça a permis d'un accès au traitement des informations, à leur obtention, qui est beaucoup plus facilité, et ça a beaucoup joué dans l'explosion de la quantité d'informations qui est traitée. Entre autres des informations personnelles, mais pas seulement, ça peut être aussi des informations sur tous les objets connectés qui sont aussi partie de l'Internet maintenant. Donc c'est un coût, évidemment, c'est un coût sur la vie privée, on va en parler. Mes recherches sont aussi sur les aspects infrastructure énergie. Sur les aspects énergétiques, c'est plusieurs pourcents de la production d'électricité mondiale qui est maintenant uniquement dédiée au stockage, au traitement de nos informations.
J'ai entendu le chiffre de 2% ce matin à la radio.
C'est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. On n'a pas vraiment les chiffres exacts, il faudrait faire la somme de tous les centres de calcul partout. Mais c'est dans ces ordres-là, plusieurs pourcents. Et c'est amené à grandir, en fait.
Et en fin de compte, est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi est-ce que entreprises ou ces agences stockent autant de données?
La question, c'est pourquoi est-ce que ces six services qui finalement collectent ces données ont autant de succès? C'est parce qu'ils apportent quelque chose aux gens. Il faut demander à vos adolescents pourquoi ils sont autant enclin à mettre des choses sur Facebook, etc. Ça leur apporte quelque chose. Je pense que ça fait une forme de lien social ou une forme d'échange qui répond à un besoin ou qui a créé un besoin. Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça en vaut la peine? Alors ça va être des questions plutôt sur est-ce qu'on est prêt à lâcher une part de notre vie privée ou du droit à l'oubli, par exemple, sur le stockage de ces données pour avoir des services qui permettent de partager des choses avec ses amis sur des sites de réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est une question que les informaticiens proposent des choses. Finalement, les gens les adoptent. Et est-ce que ça vaut le coup? Ben, je pense que s'il y a des clients, c'est que ça doit marcher.
Alors, ça me permet de rebondir sur l'argument suivant, c'est-à-dire que Bien sûr, il y a des gens, la majorité, je pense, qui mettent spontanément, sans aucune sollicitation, des données à partager, destinées à un certain nombre de personnes, qui sont les amis, évidemment, mais pas sans se rendre compte forcément que ça va aussi aller au-delà du cercle d'amis, puisque n'importe qui peut se servir.
Alors, il y a deux choses. Il y a les données, effectivement, qu'on va envoyer, qui vont se retrouver disponibles à des tiers, soit via des... une méconnaissance de l'utilisateur, soit via des canaux cachés, par exemple, une utilisation abusive de ces données par l'entreprise à laquelle on les donne, ou simplement des clauses d'utilisation qu'on a mal lues. Puis il y a aussi tous les canaux d'obtention de données cachées. Alors, je ne sais pas si on va sans doute parler de cette histoire de Angry Birds, qui est venue dans les nouvelles il y a peu de temps. Où l'éditeur de ce jeu pour téléphone intelligent, on va éviter un anglicisme de plus, était particulièrement fâché puisque les systèmes de publicité qui étaient intégrés au jeu, puisque le jeu est quasiment gratuit, pour pouvoir avoir une source de revenus avec ce jeu, le jeu lui-même fait simplement affiche une publicité. Pour que cette publicité ait un intérêt, il faut qu'elle soit ciblée pour l'utilisateur. Pour cibler la publicité pour l'utilisateur, il faut récolter des informations sur l'utilisateur. Et il y a une grande masse de données qui est maintenant récoltée de façon éthiquement contestable, éventuellement, qui permettent de faire du ciblage à la publicité. Alors, on pourrait se dire, bon, si c'est juste pour voir des publicités, on peut les ignorer, etc. Mais cette information, elle est là. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir toutes ces collectes pour uniquement jouer à des jeux de façon gratuite? Ça, c'est une question qui est effectivement complexe et actuelle.
Justement, alors, du point de vue légal et juridique, là je me tourne vers Jean-Philippe Walter, souvent l'utilisation d'un logiciel pour pouvoir le télécharger, elle est soumise à l'acceptation de conditions générales dans lesquelles figure, ou bien même simplement l'acceptation de remplir dans le questionnaire son identité, son email, éventuellement son téléphone. Et est-ce que c'est légal de récolter ce genre de données privées à des fins commerciales en disant simplement à l'utilisateur, vous ne donnez pas vos données privées, vous ne pouvez pas utiliser le produit. Même si vous voulez payer, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'on a besoin de ces données-là pour vous le fournir.
Bonsoir tout le monde. Alors, bon, la réponse n'est pas noire ou blanc. En fait, ici, on tombe dans toute la problématique de la loi sur la protection des données qui, elle, est là pour mettre le cadre à respecter pour pouvoir traiter des données personnelles. Donc la protection des données, c'est avant tout la protection des individus, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales lors du traitement de données personnelles. Et là, il y a un certain nombre de principes qui sont définis dans la loi, et notamment, il y a aussi le principe de licéité. Ce principe dit qu'on ne peut traiter des données que si on peut le justifier. Là, on se trouve dans l'exemple que vous donnez, on se trouve dans le droit privé. Donc ici, c'est sur la base d'un motif justificatif qui peut être la loi, qui peut être le consentement de la personne ou un intérêt privé ou public prépondérant. En l'occurrence, ici, ça se base sur le consentement. Mais qui dit consentement dit aussi qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, notamment de transparence, d'information de l'individu pour qu'il puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Et c'est là que vient la difficulté, c'est que souvent, l'individu, au départ, ne sait pas ce qu'il va être fait des informations qu'il donne à ce type d'entreprise qui vous met à disposition des logiciels gratuits, ou alors il ne prend pas la peine de lire les conditions générales qui généralement font plusieurs pages. Si vous faites ça sur un iPhone, vous allez, à moins d'avoir de très bons yeux, vous allez vite vous fatiguer parce que c'est écrit relativement petit. Donc ça, c'est là tout le problème. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que l'individu manque souvent de curiosité par rapport à ce qu'on lui offre. Il voit peut-être l'aspect de la gratuité, l'avantage qu'il va en retirer, et ne se pose pas véritablement les vraies questions. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient un téléphone, un smartphone, et différentes applications, et certainement une application qu'on utilise pratiquement tous, celle des CFF. Et combien d'entre vous a pris la curiosité d'aller voir dans les réglages ce que fait cette application? Et lorsque vous allez voir que par défaut, les CFF collectent ont accès à votre carnet d'adresses et collectent le carnet d'adresses de votre téléphone. Et on peut bien se demander pour quelle raison. Ça n'a aucune utilité pour pouvoir aller consulter un horaire de chemin de fer. Et cet exemple-là, on peut le multiplier par rapport à de nombreuses applications que nous avons et que nous utilisons tous les jours et sur lesquelles on collecte des informations à l'insu des individus qui n'ont pas pris la peine de vérifier ce que faisait effectivement cette application. Donc c'est là tout l'enjeu que nous, en face de nous, face à la multiplication des logiciels dits gratuits, parce qu'effectivement, ils ne sont pas gratuits.
Justement, que fait votre bureau, puisqu'il sait ce problème au niveau des CFF, est-ce qu'il y a une réaction ou est-ce qu'il se passe quelque chose?
Oui, évidemment, là, nous, dans ce type de cas, nous allons intervenir. C'est clair que nous allons attirer l'attention d'une part de l'utilisateur pour lui rappeler qu'il doit être, lui, vigilant aussi par rapport aux applications qu'il a, aussi auprès des CFF pour changer un petit... d'autres fournisseurs de telles prestations, pour arriver à leur faire changer de mentalité et les amener à, par défaut, définir leurs applications de manière à protéger le droit à la vie privée. Et c'est à l'individu, finalement, à décider si, lui ou non, il veut ouvrir et donner accès à d'autres informations, s'il est d'accord qu'on collecte des informations sur lui, notamment pour des fins publicitaires.
Alors, justement, à propos de collecte d'informations et d'identité, et on avait parlé de l'identité, de la déclinaison d'identité, par exemple, quand on veut acheter un produit. Mais il n'y a pas qu'Internet. Moi, je suis allé chez un coiffeur l'autre jour, et à la fin, on m'a demandé mon nom et mon adresse. Je veux dire, mais quel est le rapport? Moi, je suis venu, je me suis fait coiffer, et voilà, je paye et je pars. Ah, mais on en a besoin pour notre base de données. C'est nouveau. Bon, la Migros, ils n'ont plus besoin de demander, ou la COP, puisqu'il y a les cartes Cumulus et compagnie. Voilà. Mais c'est pour dire que ça devient vraiment à la mode. Bientôt, on devra demander l'identité, on devra donner son identité pour boire un café, je ne sais pas, dans les restaurants. Peut-être que ça va changer comme
bon,
ça.
Sur cet exemple, que là, évidemment, ça, c'est clairement, vous avez la faculté de dire non et, oui, et de refuser. Il n'y a aucune justification à demander chez son coiffeur ou si vous allez acheter le journal dans un kiosque quand vous demande votre nom. On le fait par rapport à des logiciels pour pouvoir vous fournir un certain nombre de prestations et vous repérer. Mais là, dans la vie courante, ça ne devrait pas être le cas. Et en tous les cas, c'est à vous à décider si oui ou non vous allez donner ce type d'information. Il n'y a aucune justification, aucune finalité apparente et c'est complètement disproportionné.
Alors, puisqu'on parlait de... Oui, alors, on y va. D'accord, monsieur. Attendez, on va juste... le micro va venir. Voilà, allez-y.
Oui, monsieur Daniel Gross, je me permets de vous dire mon nom. Ma question est la suivante. Donc, on parle toujours du besoin ou du non-besoin de collecter ces données. Moi, j'ai un mécanisme dans la tête qui est un peu différent. Je m'imagine donc une entreprise informatique, n'importe quelle, hardware, software, n'importe quoi, cloud ou pas cloud. Et ces gens, cette entreprise, elle marche bien. Donc, on a des centaines de personnes qui y travaillent. Donc, on embauche aussi des avocats. Excusez-moi, monsieur, c'est comme ça que je vois. Et puis, ces avocats, naturellement, c'est comme une plante qui met ses racines dans cette entreprise. Il commence à justifier l'existence en posant des questions au PDG, en disant « là, il y a un risque, faudrait-il pas faire un paragraphe qui introduit ça, et puis il faudra un paragraphe aussi pour ce risque-là, et encore ce risque-là, et puis à l'assureur qui dit aussi « ah oui, il y a ce risque », et puis l'informaticien qui se dit « ah oui, mais je ne suis pas bête, là, il y a encore un risque, là, il pourrait passer encore quelque chose ». On arrange, j'ajoute, finalement, on a 10-20 pages, c'est pas exagéré, de textes, conditions générales, pour un truc qui correspond au coiffeur. Quoi. Et ma question, donc, en résumé, est-ce que ce mécanisme de fonctionnement des entreprises qui gagnent suffisamment l'argent pour compliquer les choses, est-ce que c'est peut-être pas là un des moteurs importants et pas la naïve objectivité de pouvoir récolter des données?
Alors, qui veut se lancer dans la réponse?
Non, mais bon, c'est clair que ces entreprises, bien sûr, il y a des stratégies derrière. Et sur la manière de faire des clauses générales, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Et notamment, un des critères, c'est la responsabilité ou disons la non-responsabilité que veut prendre l'entreprise par rapport au produit. Mais par rapport au traitement des données, il faut pouvoir distinguer entre ces conditions générales et les aspects qui touchent à la protection des données pour que le consommateur, l'individu citoyen, puisse facilement avoir accès à l'information et facilement savoir ce que l'on veut faire avec les données, parce que finalement, c'est notre personne qui est en jeu. Ce n'est pas les données de l'entreprise, ce sont mes données, ma personne qui est en jeu, et c'est moi qui dois pouvoir déterminer ce que l'on fait avec ces informations si je les mets à disposition. Donc, c'est là qu'il faut, en fait, revoir les règles du jeu. Vous avez parfaitement de raison de dire que là, on a affaire à des armadas, et surtout, plus les entreprises sont grandes, je peux vous dire que des entreprises comme Google, si vous avez affaire à elles, ils vont débarquer avec, non pas une personne, mais en tout cas, 5 à 6 personnes à différents niveaux et une armada d'avocats pour essayer de défendre leur position.
Asymétrie de la non, ça va bien. Cette asymétrie de la puissance juridique par rapport au service rendu. Voilà.
Oui, donc il y a clairement un déséquilibre là au niveau juridique. On pourrait peut-être penser à des solutions du style de limiter, par exemple, à une page le nombre de conditions générales ou quelques paragraphes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, madame.
Une question à vous poser à propos des CFF, parce que j'ai déchargé quelques applications où ils demandent est-ce qu'on peut avoir accès à vos contacts. J'ai répondu non. Mais sauf erreur, les CFF n'ont jamais posé la question, c'est bien juste.
Alors, vous avez parfaitement raison. Leur application, lorsque vous la téléchargez, ne vous demande absolument rien. Il vous faut aller dans les réglages, et c'est dans les réglages qu'on découvre qu'il y a une petite coche sur laquelle il faut presser pour désactiver cet accès à vos contacts.
Si je peux juste rajouter, il y a un problème aussi ici qui est pointé, qui est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes qui sont portées sur les logiciels eux-mêmes. Si vous avez un fournisseur de système d'exploitation pour smartphone ou autre, hein, d'ailleurs, vous n'avez pas d'obligation de mettre les données dans des bases séparées avec des accès qui soient effectivement demandés à l'utilisateur. C'est quelque chose qui pourrait être imposé. Ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas vraiment de base juridique non plus, à ma connaissance, pour ça. C'est quelque chose qui existe dans d'autres types de bases de données. Par exemple, bases de données sur les données clients. Par exemple, vous n'avez pas forcément le droit de mettre des données liées les unes aux autres au même endroit. Vous devez demander des autorisations, etc. Dans le domaine de l'informatique, sur vos données personnelles, sur votre smartphone, c'est encore un petit peu le loi de la jungle qui s'applique.
Moi, j'aimerais juste rebondir sur le fait de la récolte de données, proprement dite, parce que là, on a vu beaucoup d'aspects évidemment négatifs, intrusifs, mais est-ce que ça ne peut pas avoir aussi une utilité, notamment, je pense, à la police, aux enquêtes, et c'est là que je me tourne vers le spécialiste en cybercriminalité et en traque de traces numériques. Est-ce qu'il y a quand même eu des exemples où ces collectes massives de données ont permis d'aboutir à des enquêtes, d'arrêter des criminels ou que sais-je?
Je pense tout d'abord qu'il faut voir qu'il y a de nombreux types de traces qu'on laisse à travers nos activités. On a beaucoup parlé des traces ou des informations qu'on donne à travers des applications dans notre smartphone, où là il peut y avoir consentement ou non. Mais avec les révélations sur la NSA, si on parle des traces utilisées par les polices, on va aussi parler de traces qui sont d'un autre type. Par exemple, si vous utilisez votre Natel, on ne va pas vous demander l'autorisation de pouvoir savoir où vous êtes, parce qu'il faut que le fournisseur, il faut que Swisscom, Orange, sache exactement où vous êtes, dans quelle cellule vous êtes, pour simplement garantir la fonctionnalité. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans une société de l'information, la plupart de nos activités, même les activités de tous les jours, les activités courantes, laissent des traces, et des traces toujours plus nombreuses. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces traces ? Si on prend le point de vue de la police, puisque vous me posez la question, depuis très longtemps, la police a la possibilité, par exemple, de mettre un téléphone sur écoute. Finalement, au niveau technique, la possibilité existe. Mais on a des lois. On a des lois qui régissent ces écoutes, qui font que la police ne peut pas mettre n'importe qui sur écoute. En gros, pour que quelqu'un puisse être mis sur écoute, eh bien, il faut que la police puisse prouver que la personne est véritablement suspecte. Et à ce moment-là, on va pouvoir enclencher une procédure d'écoute pour essayer de montrer que cette personne a vraiment commis certaines activités délictueuses. Les techniques d'écoute, qu'elles soient utilisées de cette manière ou qu'elles soient utilisées à large échelle, elles sont finalement, au niveau technique, il y en a plusieurs qui sont relativement proches. Pas toutes, hein, mais il y en a qui sont relativement proches. Alors c'est vrai que les écoutes téléphoniques, par exemple, ont permis, dans de nombreux cas, de finalement faire progresser une enquête et de trouver en fait qui sont les auteurs d'activités criminelles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec les révélations de Snowden, on inverse un peu le processus. C'est-à-dire que là, c'est des écoutes à très large échelle. C'est-à-dire que le paradigme est plutôt dans l'autre sens. Toute personne qui n'est pas prouvée innocente est considérée comme suspecte. Et ça, bien sûr, du point de vue de la sécurité de l'État, on peut se dire, ça peut faire sens. Alors on pourrait y revenir, parce qu'on parle beaucoup de sécurité des États, de sécurité de la nation, de sécurité... Le terme sécurité est un terme qui est utilisé un peu pour tout actuellement, qui couvre de nombreux aspects. Mais ce que je veux dire, c'est que ces techniques utilisées à très très grande échelle, finalement, nous concernent tous. Alors, Snowden, par ses documents, a montré que ça se faisait. J'entends parmi les spécialistes, je dirais, on n'a pas vraiment été surpris. Parce que techniquement, on sait que c'est possible. Mais après, est-ce que ça le fait réellement ? Bon, j'entends, il y avait bien des indices qui montraient que ça devait se faire. Après, il y a un autre aspect qui intervient, qui crée une grande différence entre le côté policier et puis le côté des services secrets. C'est qu'en général, une police est soumise à des lois, à une juridiction liée à un pays, qui d'ailleurs limite souvent considérablement les enquêtes, parce que du point de vue d'Internet, très souvent maintenant, eh bien, les activités criminelles jouent sur le fait qu'on a des juridictions différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, ce qui complique considérablement en fait le travail de la police. Au niveau des services secrets, eh bien, il suffit de se mettre dans une zone finalement qui est hors d'une juridiction pour pouvoir faire certaines choses qu'on n'oserait peut-être pas faire si on était soumis à la juridiction de notre pays. Il peut y avoir des lois qui régissent très précisément les activités dans le cadre policier qui ne s'appliquent pas pour la sécurité de l'État. Donc il y a tout un problème légal qui permet finalement à certains services secrets d'effectuer des écoutes ou disons d'utiliser certains outils dans une échelle beaucoup beaucoup plus grande que ce qui se fait au niveau de la police. Alors je pense que il faut en être conscient dans la discussion. Si on prend les applications comme Angry Birds, okay, au départ c'est finalement pouvoir faire le profil d'un utilisateur pour pouvoir cibler les publicités. Les informations sont là. Suivant les techniques utilisées, elles peuvent être récupérées à différents niveaux, avant qu'elles arrivent chez Angry Birds, peut-être après. Il peut y avoir vraiment des interceptions à bien des endroits. Pourquoi ne pas les utiliser ? Si finalement le but c'est de récolter le plus d'informations possible, sur tout le monde pour essayer de voir, en fait, parmi toute la population mondiale, qui sont les personnes les plus suspectes. Et puis, on entend beaucoup parler de protection des données, de se dire, en fait, il faut bien réfléchir avant de donner nos informations personnelles. Là, j'aimerais aussi faire une remarque. Très souvent, j'entends des personnes qui me disent, mais finalement, j'ai rien à cacher. Alors, je pense qu'à cette table, on est assez convaincus des raisons, en fait, pour lesquelles c'est peut-être mieux de ne pas donner, en fait, toutes les informations à tout le monde. Mais en fait, on peut tout à fait aussi se dire, puis je pense que c'est un point de vue qu'il faut adopter aussi, et puis en tout cas l'aborder, puis se poser la question, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de cacher de l'information ? Est-ce que vous avez besoin de cacher le fait que vous êtes dans cette salle ? Pourquoi, finalement ? Hein ? Est-ce que quelqu'un parmi vous a un attel ? Qui a un attel ? Hein ? Qui a son attel aujourd'hui ici ? Qui l'a en mode veille, c'est-à-dire qui pourrait être atteint si, en cas d'urgence ? Alors, simplement le fait que vous ayez un attel, puis que vous puissiez être atteint, ça signifie que l'opérateur sait qu'actuellement, vous êtes ici. L'opérateur a des informations que vous, vous n'avez pas. Vous voyez les gens qui sont ici dans cette salle, par contre, vous ne connaissez peut-être pas leur nom, leur adresse, leur liste de contacts, à qui ils ont téléphoné. Mais les opérateurs, finalement, ils les ont, ces informations. Vous direz, bon, c'est égal. C'est pas bien grave de savoir que je suis dans cette salle. Alors je dirais, le problème avec les données personnelles qu'on donne ou qu'on divulgue à très grande échelle, c'est qu'ensuite elles sont interprétées, elles sont analysées pour faire ce qu'on appelle un profil, faire du profilage, pour essayer, comme mon collègue l'a dit, d'anticiper nos comportements, peut-être d'un point de vue commercial, d'anticiper nos préférences, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter, quelles sont nos habitudes. Dans ce sens-là, nous connaître peut-être mieux qu'on se connaît nous-mêmes, ça c'est une possibilité, mais disons, c'est de nous catégoriser. Et qu'est-ce qui nous prouve que la manière dont on est catégorisé correspond vraiment à qui on est ? Il y a des erreurs. Et suivant les erreurs, eh bien ensuite, on peut en faire les frais sans même se rendre compte pourquoi on était catégorisé dans cette catégorie. Imaginons que dans la salle, il y ait quelqu'un qui soit un hacker. Quelqu'un qui, ou pire, qui, pour des raisons qui nous échappent, soit dans une liste grise de personnes qui pourraient potentiellement peut-être être un hacker ou peut-être quelqu'un qui pourrait faire du tort à des infrastructures sensibles, ou peut-être quelqu'un qui aurait des liens, parce que peut-être il est allé dans un avion, ou il y avait quelqu'un qui lui-même était dans une liste de terroristes potentiels. Eh bien, cette personne qui est dans cette salle ici, qu'on ne connaît pas, eh bien maintenant on sera classé comme ayant passé une heure et demie en compagnie ou dans un milieu fermé en présence de cette personne. Et ça peut être mal interprété. Alors c'est un exemple grossier, mais je peux vous en donner un autre qui va peut-être aussi illustrer ça. J'ai travaillé il y a quelques années dans un cadre d'un projet avec une avocate d'Angleterre qui, son mari était trader à la Bourse de Londres, donc ils avaient un revenu assez important. Et il y a une dizaine d'années, un peu plus, elle est allée à la banque et puis elle a demandé une nouvelle carte de crédit. Et la banque lui a dit, écoutez, je suis désolé, une fois qu'ils ont entré toutes les données, hein, nom, prénom, etc., ils ont identifié la personne, et le système informatique, en arrière-plan, a fait un profilage, et puis il a dit, non, on ne peut pas vous octroyer cette carte de crédit. Et elle a dit, mais ce n'est pas possible, non, il y a une erreur. Ils ont rentré les données, ils ont refait les tests, et puis l'employé a dit, non, vraiment, je suis désolé, on ne peut pas vous la donner. Finalement, la banque n'a pas l'obligation de donner la carte de crédit. Ils peuvent refuser. Son mari travaillant dans le milieu bancaire, elle est avocate, ils ont commencé d'enquêter. Ils ont essayé de trouver pourquoi. Et la raison est vraiment effrayante, dans un certain sens. 2 ans auparavant, ils avaient décidé de louer une télévision plasma. Vous voyez, ces grandes télévisions, à l'époque, c'était très très cher. Et puis, Donc ils ont loué, ils ont pris cette télévision, et puis après quelques mois, ils se sont dit, bon, c'est cher, mais finalement, elle nous plaît bien, on l'achète. Jusque-là, on pourrait se dire, rien de grave. Le système informatique a juste gardé une information, ce couple a cassé un contrat de location. Le fait qu'ils aient cassé un contrat de location, automatiquement, ça les a mis, par ces techniques de profilage, comme des gens qui sont finalement des risques potentiellement mauvais payeurs. Et pour cette raison, leur carte de crédit a été refusée. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Ils ont réussi à retrouver les choses. Maintenant, les informations circulent, elles sont profilées par des algorithmes qui parfois fonctionnent bien. Si d'un point de vue commercial, ça fonctionne bien dans 90% des cas, c'est déjà très bien. Mais si pour d'autres services, vous êtes mis dans la mauvaise catégorie, vous tombez dans le 10% des cas où l'algorithme se trompe, eh bien, vous pouvez en faire les frais. Et c'est très, très difficile de savoir comment nos informations, même les plus anodines, lorsqu'elles sont toutes reliées entre elles, interconnectées, peuvent aboutir à ce qu'on pourrait appeler des défauts négatifs.
Est-ce qu'à ce stade, il y a des remarques dans la salle ? Parce que, alors, est-ce qu'il y aurait une solution de rendre toutes les transmissions de données complètement secrète. Puis là, je me tourne vers la cryptographe, Madame Gorla. Est-ce que, d'abord, expliquez-nous peut-être en deux mots, quand on fait des paiements, par exemple, via des applications bancaires, où on a ce fameux sigle HTTPS dans des pages sécurisées, d'une part, est-ce qu'elles le sont vraiment ? Puis, d'autre part, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ? Comment est-ce qu'on crypte les données aujourd'hui quand on fait des transferts de données sensibles comme des paiements ?
Oui, donc aujourd'hui, on utilise des techniques de mathématiques pour garantir la sécurité des données. Donc quand je vais à une page internet et j'achète quelque chose et je mets mon nombre de carte de crédit. Si j'ai une page HTTPS, il a un serrure vert. Je suis sûre qu'il fonctionne bien et donc je suis sûre, plus ou moins sûre, que. Oui, on a toujours des hackers, mais normalement, je suis sûre que tout fonctionne bien et donc que ma transmission a été sécurisée bien. Et que donc les données que je demande, elles sont confidentielles. Et comme je dis, pour faire comme ça, on utilise des techniques de mathématiques, mais pour faire une analogie, je dirais que c'est comme si je veux vous demander un message confidentiel, c'est comme si vous m'envoyez un serrure. De quel seulement vous avez la clé. Donc, je mets mon message et nos valises et je ferme avec les serrures. Et seulement la personne qui a la clé peut ouvrir la valise. Donc, on utilise, c'est seulement une analogie, mais on utilise des méthodes mathématiques pour faire comme ça. Donc, les serrures sont en fonction mathématique. Il y a une fonction que tout le monde peut calculer. Donc, tout le monde peut fermer les serrures. Et la clé est un petit secret qu'on appelle clé secret de l'utilisateur. Et seulement la personne qui a la clé peut calculer, peut décrypter, on dit. Donc, peut calculer les messages. Peut trouver les messages secrets. Et pour faire ça, idéalement, on nécessite une preuve de sécurité. Donc, on nécessite une raison pour croire qu'il fonctionne bien et que nous sommes sûrs. Donc, comment que je suis sûre que ces méthodes ils fonctionnent bien et que mes messages sont traités de manière confidentielle? La base de tout sont des problèmes de mathématiques qui sont des calculs de mathématiques qui sont très faciles à faire, mais très difficiles à faire dans l'autre direction. Par exemple, si je prends deux nombres qui sont très grands, je peux faire la multiplication. Et c'est facile. Mais avec un élaborateur, c'est très facile, ou un calculateur. Mais l'inverse n'est pas facile. Donc, si je vous donne un nombre très, très grand, et je vous demande, pour favor, s'il vous plaît, de rencontrer les deux nombres que j'ai multipliés, c'est une opération très difficile à faire. Vous pouvez imaginer que si je peux faire l'intent de divider avec les nombres, mais si mon nombre est très grand, je dois faire l'intent avec plusieurs nombres. Donc, on fait un petit calcul et on veut que si je prends un nombre qui est très très grand, je nécessite peut-être 10 années avec les meilleurs élaborateurs pour rencontrer les deux facteurs. Donc, les deux nombres que j'ai multipliés. Et donc, la sécurité est basée en un problème de mathématiques. Ou on peut dire que le problème est difficile. Et donc, je suis sûre que, comme que le problème est difficile, je suis sûre que les autres personnes, ils ne peuvent pas le résoudre.
Alors, je crois qu'il y a une remarque. Oui.
Une des choses positives qu'on a apprises en fait, à travers les révélations de Snowden, c'est que justement la partie mathématique résiste. C'est peut-être une des seules choses qui résiste, mais ça résiste. C'est-à-dire que les algorithmes eux-mêmes, c'est-à-dire les méthodes qui sont employées justement pour chiffrer l'information, sécuriser les communications, si on prend des bons algorithmes, ces algorithmes, en fait, les meilleurs algorithmes ne sont pas cassés. Et pour aller dans la direction de ce qui a été dit, par exemple, pour vous donner un exemple, donc ma collègue vous a présenté ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. On emploie encore souvent ce qu'on appelle aussi de la cryptographie symétrique. Si on a un algorithme, même un algorithme qui date des années 90, comme AIDIA, qui a une clé, cette fameuse clé secrète, qui est formée de 128 0 et 1, si elle est créée, si elle est créée de façon tout à fait aléatoire, si elle est choisie complètement au hasard, eh bien, c'est impossible, même pour la NSA, d'essayer toutes les clés. Il y en a beaucoup trop. Pour vous donner une idée, si on avait un ordinateur qui pouvait tester 1000 milliards de clés par seconde, déjà un milliard, c'est gros, hein, un milliard de secondes, par exemple, ça signifie à peu près 30 ans. Vous voyez, 1000 milliards d'opérations de clés testées par seconde. Imaginons maintenant qu'on construise un milliard d'ordinateurs qui ont cette puissance. Eh bien, pour tester toutes les clés, il faudrait environ l'âge de l'univers. Donc on est du bon côté. Par contre, donc les mathématiques, oui, elles résistent. Je suis content parce que je suis aussi mathématicien, donc ça me plaît bien. Par contre, il y a tout un monde entre l'algorithme sur papier, l'algorithme programmé sur l'ordinateur, sur une smart card, la façon dont il est utilisé, par exemple, est-ce que la clé est vraiment choisie de façon tout à fait aléatoire. Vous voyez, même si vous avez le petit cadenas quand vous surfez, qui sécurise la ligne, si la clé, par exemple, il n'y a que les quatre premiers, 0 et 1, qui sont choisis au hasard, puis tout le reste est fixé, eh bien, il y a très peu de solutions, il y a très peu de possibilités à tester pour retrouver la clé. Donc si l'algorithme est mal implanté, soit par hasard, soit par négligence, soit parce qu'on a envie qu'il soit mal implémenté, eh bien si l'algorithme est mal implémenté, même s'il est sûr d'un point de vue mathématique, on peut casser les choses. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans toutes ces questions d'écoute, le cryptage joue un certain rôle, mais prenez l'exemple des téléphones. C'est vrai que la communication elle est cryptée entre le téléphone et puis la station de base. Là, on n'a pas un algorithme très sûr. Hein, c'est l'algorithme A5, il n'est pas très sûr. Mais ça joue de toute façon pas un grand rôle, parce que les données peuvent être écoutées ailleurs. Elles peuvent être écoutées avant le décryptage ou après le décryptage. votre ordinateur, quand vous vous connectez sur Internet, il y a bien des gens qui pensent que leurs propres ordinateurs sont des alliés. Notre propre ordinateur devrait toujours être considéré comme un environnement hostile. Il y a tellement de manières, en fait, d'intercepter les communications, même sur votre machine, avant même qu'elles partent, avant même qu'elles soient cryptées, chiffrées. Et puis ensuite, si elles sont chiffrées, une fois qu'elles arrivent à destination, elles seront déchiffrées. Et qu'est-ce qui vous prouve qu'une fois qu'elles sont déchiffrées, elles ne vont pas passer plus loin, être utilisées, écoutées d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut chiffrer, on peut sécuriser la communication, mais c'est qu'un aspect, en fait, dans l'ensemble des télécommunications. Et c'est rare, en fait, les gens ne vont pas attaquer un système au niveau du chiffrement lui-même. Parce que, comme je vous l'ai dit, s'il est bien fait actuellement, il résiste. Par contre, on peut mettre à disposition sur Internet un algorithme préprogrammé qui fonctionne très bien, mais dans lequel on a mis un petit quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus facile de le casser que si on l'avait programmé soi-même.
Oui, alors, peut-être quand même mettre un bémol à ce qui vient d'être dit, parce que dans les révélations de Snowden, on sait aussi que les États-Unis, la NSA, a obtenu de certaines entreprises ce qu'on appelle les portes arrière, qui permettent justement de pouvoir avoir accès, malgré un chiffrement résistant, de pouvoir quand même avoir accès aux informations. Donc là, il y a quand même des lacunes. Il y a deux entreprises aux États-Unis qui offraient un service de messagerie électronique qui, une fois les révélations faites, ont simplement décidé d'arrêter toute activité vu les pressions de la NSA pour pouvoir justement avoir accès aux clés de déchiffrage. Donc là, il y a quand même encore un certain risque. Ça dépend qui a la maîtrise aussi de ces programmes de chiffrement des données.
Oui, mais juste préciser, pour moi, ce n'est pas un bémol. C'est vraiment, en fait, c'est pas la partie mathématique qui est attaquée, c'est vraiment tout l'encadrement, toute l'infrastructure qui est mise autour. Oui.
Ma question. Est-ce que... moi, mon impression, quand je vous entends dire on est du bon côté, vos algorithmes, machin, on n'est pas un peu naïf, parce que vous dites c'est impossible, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Mais on sait que ces données, même s'ils ne peuvent pas être déchiffrées, actuellement, sont stockées. Ils le savent, on ne peut pas les déchiffrer maintenant. Mais dans le futur, qui c'est qui nous dit qu'on ne peut pas les déchiffrer? Parce que ça, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a 15, 20, 50 ans en arrière, on aurait cru tout ce qu'on peut faire actuellement avec ces machines? Parce que c'est vraiment là le problème. Et quand je vois, je m'excuse, l'âge, j'aurais bien voulu avoir un peu quelqu'un de plus, un peu plus près de la pratique. Vous voyez comment, informaticien plus jeune. Je me dis mais il y a tellement de choses que on s'imagine encore pas qu'on va pouvoir faire. Je me dis mais quand j'entends, on est du bon côté, c'est pas possible, c'est trop compliqué, algorithme, machin. On sait pertinemment qu'un jour, ça va être possible. C'est ça, je me dis. Bon, il faut jamais se croire du bon côté, du bon... Jamais être trop tôt.
Je commence et puis je passe.
Le bon côté, c'était du côté des mathématiciens. C'est que le mathématicien défendait son métier, mais pas forcément... pour dire qu'on sécurise effectivement bien nos données. Ce n'était pas du tout ça, le message.
Sur l'aspect de votre remarque sur le fait que l'on stocke les données, effectivement, en pensant que plus tard, on pourra les exploiter, oui, c'est juste. En tout cas, du côté de nos services secrets, donc ce qui a été révélé par Snowden, entre autres, on sait qu'effectivement, il y a des choses qui sont stockées, pas tout, parce que simplement la masse de données est trop grande, mais pour ce qui pourrait avoir un intérêt est stocké. Je pense que de toute façon, le risque principal, comme mes collègues l'ont mentionné, c'est surtout sur soit des portes arrière qui sont ouvertes pour permettre d'accéder aux données malgré le chiffrage et malgré les outils mathématiques. Et c'est aussi l'utilisateur lui-même, mais le manque de discernement ou d'éducation, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait apprendre à nos jeunes pendant leur scolarité. Mais il y a beaucoup de gens qui simplement vont avoir des comportements qui vont les mettre à risque même. Donc souvent, il n'y a même pas besoin de faire de grands efforts, de casser des codes, de casser des chiffrements pour retrouver vos données. Simplement le fait que... une grande partie des gens vont utiliser le même mot de passe sur un grand nombre de sites, y compris des sites qui peut-être ne sont pas forcément aux mains de gens très recommandables. Suffit souvent à aller récupérer vos données sans que grand effort soit fait sur le côté informatique. Donc l'ingénierie informatique, elle est souvent utilisée en dernier recours après l'ingénierie sociale, si vous voulez qu'on appelle ça dans La plupart des grands hackers qui ont récupéré des informations, même dans les entreprises, souvent ont plutôt utilisé des techniques d'ingénierie sociale avec les personnes qui sont plus faillibles que les systèmes, souvent.
Je sais pas si vous... Oui, ben, c'est vrai que les affaires de Wikileaks et consorts, c'était des facteurs humains qui étaient là. C'était pas du tout du piratage de données.
J'aimerais encore juste rajouter quelque chose. Peut-être que je me suis mal exprimé. Loin de moi de dire, en fait, tout est sûr, il n'y a rien à craindre. Ce que je voulais montrer, c'est que même si les algorithmes sont sûrs, en gros, ce n'est pas suffisant, parce qu'on peut détourner ça pour pouvoir retrouver l'information. On peut la stocker pour éventuellement, peut-être une fois, pouvoir la décrypter, mais ce n'est même pas là le vrai problème, à mon avis. Qui parmi vous a déjà envoyé un email ? Pas beaucoup, c'est étonnant. Souvent. Alors, qui n'a jamais envoyé d'email ? Ok. Qui a déjà envoyé un email sécurisé ? Vous voyez, ça diminue. En fait, ce qui se passe, c'est que on a beau avoir des algorithmes qui permettent des transmissions sécurisées, la plupart des, par exemple, des emails, pour prendre un exemple qu'on connaît bien, les emails sont envoyés en clair. Il n'y a même pas besoin de vouloir décrypter. Et là, il y a déjà énormément d'informations qu'on peut trouver.
Mais pourquoi les emails ne sont pas par défaut sécurisés ? Pourquoi ? Voilà, c'est ça la vraie question.
Parce qu'il y a beaucoup de travail d'encrypter tout et de faire tout. Et donc, les algorithmes d'encryption en causent quelque chose. Des temps, de calcul. Et toutes ces choses comme
mais
ça.
Mais quand on fait un paiement sur Internet, on n'a pas l'impression que ça prend beaucoup plus de temps que d'envoyer un email. Quand je suis sur ma page bancaire qui est censée être sécurisée, je n'ai pas l'impression que ça prend du temps. Comme ça, plus utilisateur.
Oui, là, c'est le système qui prévoit justement, qui met à disposition l'infrastructure. Mais avec le mail, le problème, il y a la méconnaissance, ça, c'est un des éléments. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent chiffrer des données. Mais ensuite, il faut que si je chiffre un mail, il faut que celui qui le reçoit ait la clé de déchiffrage. Donc, il faut que lui aussi ait un système qui soit capable de déchiffrer. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore des standards qui sont reconnus. Il y a des produits qui existent, et il y en a des très bons comme PGP, mais qui sont relativement déjà difficiles d'utilisation. Mais il faut que tous vos relations aient le même système pour pouvoir ouvrir vos mails.
Parce que là, je fais... Alors, la différence avec la page bancaire, c'est que le destinataire est justement une société... Qui est mon interlocuteur, c'est ça. D'accord. Si on fait de particulier à particulier, c'est là que ça devient compliqué.
Dans le cas d'une relation bancaire, en fait, les intervenants sont identifiés, clairement, et authentifiés. Donc, c'est-à-dire la banque, vous savez que vous avez un compte dans la banque vous connaît comme client, elle peut vous envoyer une lettre, elle peut vous envoyer une calculette. Il y a une relation qui fait que ça permet d'authentifier les participants. La grande difficulté avec l'email, c'est qu'on doit pouvoir communiquer de façon sécurisée, si on veut employer un email sécurisé, avec quelqu'un qu'on n'a peut-être jamais rencontré. Alors, comment authentifier les gens ? Et on a dû introduire des systèmes. Il y a plusieurs systèmes pour essayer de combler cette lacune. Mais c'est vrai, c'est des systèmes qui sont encore un peu difficiles à utiliser pour quelqu'un, un nom spécialiste. Quand on est spécialiste, ça se fait vite, mais c'est beaucoup plus difficile que de se connecter. Ah, une fois que c'est installé, ça va bien. C'est aussi facile que de se connecter à sa banque. Ça ne prend pas plus de temps. Les ordinateurs actuels calculent suffisamment vite. Ça ne ralentit absolument pas le processus, apparemment. Mais c'est simplement pour l'installer, ça demande certaines connaissances. Et là, si on n'emploie pas ça, si on emploie nos emails normalement, comme je dirais 99,9% des gens, eh bien, ça revient à envoyer presque une carte postale, je dirais même encore pire, parce que c'est envoyer une carte postale, mais ensuite la lire à la radio. Donc, il faut en être conscient. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on laisse à travers nos activités, mais qui n'ont même pas besoin, qui n'utilisent pas de cryptage. Votre téléphone, quand il donne la position où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas crypté en soi. C'est des données qui sont accessibles.
Il y avait une question.
Oui, vous m'entendez ? Parfait. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai une question. En fait, ça va être un petit peu critique peut-être envers voilà, les personnes notamment qui travaillent dans ce domaine. J'ai l'impression, peut-être c'est mon impression, qu'on nous parle beaucoup de risques, qu'ils soient Facebook, qu'ils soient cryptage, etc., etc. Par contre, on ne nous donne jamais des solutions. Donc voilà, moi j'ai l'impression que, par exemple, il y a eu des problèmes avec Snowden, avec la Confédération suisse aussi. Et puis, voilà, on nous pose la problématique, on nous dit, OK, il y a eu cette problématique, on nous a volé des données, etc. Mais voilà, il n'y a aucune solution. Et j'ai le sentiment que, je ne sais pas, qu'est-ce qui est en train de faire la Confédération, par exemple, pour chercher à résoudre ce genre de problématiques. Donc, il y a beaucoup de problématiques. Et nous, on s'est dit, OK, ils nous ont volé, ils savent nous voler les informations, ils nous les volent, et puis, voilà, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Et je vois, disons, vous donnez des très bons inputs, mais je n'ai pas des solutions. Ça me semble que personne n'a vraiment une solution pour faire face à ces différentes problématiques. Peut-être je me trompe, peut-être c'est ma vision.
Qui veut commencer à donner des solutions ? On veut des solutions maintenant.
Un des gros problèmes, c'est qu'Internet a été conçu au départ pour satisfaire à certaines propriétés, en particulier la disponibilité, le fait que c'était ARPANET au départ, c'est-à-dire que c'était conçu de telle façon que s'il y avait une attaque nucléaire et puis que certaines parties du réseau devenaient inactives, que le réseau allait pouvoir quand même continuer de fonctionner. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la fonctionnalité, mais au départ, Internet, l'infrastructure de base, n'était pas prévue pour être sûr au niveau de la, je dirais, de la protection des données, de la protection de la sphère privée. Et bien des informations qui transitent, par exemple dans les câbles sous-marins, elles transitent, ça c'est un type d'écoute, hein, DPI, Deep Packet Inspection, c'est un type d'écoute qui est tout à fait possible de par, je dirais, la conception même d'Internet. Alors si on pouvait concevoir notre propre Internet en Suisse, hein, avec nos propres protocoles, incompatibles avec l'extérieur, en appliquant uniquement nos lois, etc., on arriverait techniquement à faire quelque chose qui soit beaucoup plus sécurisé. Mais Internet, c'est quelque chose qui a certaines règles, qui ont été conçues avec certains buts, et maintenant, il y a certaines techniques qui permettent de remédier en partie à certaines choses. Mais on a quand même affaire avec une infrastructure qui a été développée, par exemple, pour envoyer des emails facilement, sans forcément s'assurer que l'expéditeur est bien la personne qui l'envoie. C'est très facile, par exemple, d'envoyer un email en faisant croire qu'on est quelqu'un d'autre.
Ouais. Alors, voilà, là, vous me donnez réponse. Merci beaucoup, mais j'ai non plus une solution. Donc, ça semble un petit peu, je ne dis pas une excuse, mais voilà, ça a été créé comme ça. Donc, on est là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vraiment, à niveau des solutions, je ne sais pas, il y a la Confédération, il y a d'autres organisations qui sont vraiment en train de dire, OK, monsieur, il y a ces problématiques-là, maintenant on doit aller protéger les clients ou les consommateurs, et voilà, savoir qu'est-ce qu'il y a en place actuellement pour finalement chercher à résoudre, pas peut-être demain, mais dans 50 ans, les différents problèmes, ou au moins une partie des problèmes.
Alors, bon, il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Évidemment, il y a tellement de couches qu'il faut voir. Alors, partons peut-être déjà de l'individu. L'individu, lui, a des solutions simples qui lui sont données déjà dès le moment où il souhaite utiliser un produit. Dès le moment où vous ouvrez un compte sur Facebook, par exemple, il y a un certain nombre de questions que vous devez vous poser. C'est déjà de commencer d'aller voir dans les réglages ce que vous voulez faire. Si les informations que vous voulez mettre à disposition sur cette plateforme, vous les destinez à tout un chacun, ou si vous allez restreindre et définir strictement votre cercle d'amis et définir qui a accès à quoi. Ensuite, la deuxième question que vous devrez vous poser, toujours par rapport à ces réseaux sociaux, parce qu'il faut bien sûr prendre chaque plateforme et pose d'autres problèmes, et restant sur les réseaux sociaux, il faudra vous demander quelle information je vais mettre sur cette plateforme. Est-ce que je vais mettre des informations qui touchent à mon intimité? Est-ce que je vais mettre des informations que dans quelques années, un employeur potentiel pourrait consulter et à utiliser de manière hors contexte à mon détriment? Donc, c'est des réflexes qu'il faut avoir en tant qu'utilisateur. Après, évidemment, il y a la question de ceux qui mettent à disposition ces plateformes, qui doivent aussi, eux, respecter les législations en vigueur dans les pays européens. Donc, ça, c'est un des grands défis aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des groupes américains qui sont régis par des lois différentes des nôtres et qui n'ont encore pas vraiment compris la philosophie du droit à la vie privée. Donc là, il y a un travail qui se fait au niveau législatif, qui doit se faire au niveau politique et législatif, qui est en cours au niveau de l'Union européenne, qui est en cours au niveau du Conseil de l'Europe, et qui est aussi en cours en Suisse. Donc là, il y a à revoir notre arsenal législatif pour renforcer aussi les obligations de ceux qui traitent des données et prévoir aussi des mécanismes de sanctions. En Suisse, on est un des rares États en Europe qui, au niveau de la protection des données, ne connaît pas la possibilité de sanctionner pénalement et par de fortes amendes des violations du droit à la vie privée, alors qu'on le voit maintenant dans la plupart des pays européens. Donc là, il y a un retard au niveau législatif aussi qu'il faudra combler. Après, il y a au niveau aussi informatique des questions à se poser. Est-ce que l'on veut continuer à être complètement dépendant de l'étranger, et notamment des systèmes qui nous viennent des États-Unis, ou est-ce qu'on est prêt aussi en Suisse ou en Europe à développer une véritable stratégie en matière du numérique qui touche à la protection des données, à la sécurité des données, ou est-ce que l'on continue simplement à consommer ce que Google veut bien nous mettre à disposition, ce que Microsoft nous met à disposition. Donc là, il y a des choix stratégiques qui doivent être faits, et j'espère qu'ils vont être faits. Le Conseil fédéral a publié aujourd'hui un communiqué disant que pour l'administration fédérale, ils voulaient revoir leur politique en matière d'acquisition de systèmes informatiques et de miser plus sur des entreprises suisses. On verra jusqu'où ils pourront aller. Je ne suis pas sûr que le marché suisse actuellement permette de résoudre toutes les questions qui se posent. Donc, il y a déjà des réponses. Elles sont parcelles, celles que je vous ai données. On pourrait continuer longtemps. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça je le concède. Il y a aussi un grand effort au niveau de la formation, de la sensibilisation des individus, pas seulement des jeunes, des enfants, mais aussi des gens comme de notre génération. Aujourd'hui, nous constatons que sur les réseaux sociaux, les gens les plus naïfs et les moins soucieux de leur vie privée, ce n'est pas les adolescents de 16 à 25 ans, c'est plutôt les générations de 50 et plus. Et donc, ça, c'est aussi un phénomène qu'il faut avoir à l'esprit.
Oui, oui, bonsoir. Vous m'entendez? C'est bon. Moi, j'ai deux questions.
Non, attendez. Chacun son tour.
Moi, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est par rapport au droit à l'autodétermination, en rapport avec les données et puis les informations qu'on transmet. Est-ce que ce n'est pas une illusion, quelque part, le fait de dire « oui, vous avez le droit de vous déterminer sur l'utilisation des données, sur le fait de transmettre vos données », sachant que, par exemple, si on ne donne pas notre accord à l'utilisation d'une donnée, on n'aura pas accès à un service, par exemple, au coiffeur. Imaginons que le coiffeur refuse justement de nous couper les cheveux si on ne lui donne pas notre nom et puis notre adresse. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, ce serait plutôt Vous avez parlé de différents moyens justement pour encadrer justement l'utilisation des données et puis la propagation des données. Est-ce que au lieu justement de passer par des juridictions étatiques qui sont enfin différentes d'un État à un autre, est-ce que la solution ne serait pas de coordonner tous ces efforts et de passer par des conventions internationales, comme justement les conventions européennes, certaines directives et conventions, et puis de passer plutôt au niveau international justement et d'essayer de faire une coordination à ce niveau-là? Parce que le fait que chacun joue son jeu tout seul, bah, ça ne permet pas d'arriver à un grand résultat, un résultat satisfaisant dans un monde qui est lié et puis qui est interconnecté, en fait.
Donc voilà. Un Internet juridique, quelque part.
Voilà, mais mondial.
Mondial, absolument.
Mondial, européen, enfin...
Bien. Alors, bon, sur la première question, le droit à l'autodétermination en matière d'information, évidemment, ça, c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution fédérale, hein, l'article 13 de la Constitution, même si c'est mal formulé, mais c'est de là qu'il découle et de la jurisprudence du tribunal fédéral. Et il est aussi reconnu de par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, c'est un droit de l'individu, donc c'est lui qui doit pouvoir l'exercer, mais ça implique que l'État mettent aussi à disposition les moyens de le garantir, et notamment en ayant des lois de protection des données qui définissent aussi certaines obligations pour celui qui traite des données pour pouvoir véritablement permettre à l'individu de l'exercer. Et cela suppose aussi un renforcement des obligations, notamment de transparence des traitements, pour pouvoir être en mesure de décider si oui ou non je donne mes informations. Pour prendre l'exemple du coiffeur, peut-être qu'il a un motif d'avoir cette adresse, mais encore faut-il qu'il le dise, qui disent pourquoi il veut l'information, qu'est-ce qu'il va en faire, à qui il va éventuellement la transmettre, combien de temps il va la conserver, et rappeler que j'ai un droit d'accès et que je peux en tout temps demander l'effacement de ces informations. Heureusement pour le coiffeur, il y a encore suffisamment de choix, donc si on n'est pas content avec celui-là, on va aller chercher un autre. Mais par rapport au monde informatique, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des groupes qui dominent et qui, si on voit Google aujourd'hui, qui met différents services à disposition et qui continue de développer, qui se lance dans l'assurance, qui se lance dans le traitement de données médicales. Donc c'est un empire qui se construit et qui a une emprise sur tout un chacun d'entre nous. Moi, je prétends que Google a plus d'informations, même que la NSA, sur l'ensemble de la population du monde. Donc là, il y a peut-être aussi un devoir de résistance à quelque part qui devra se faire. Alors, par rapport à ce que vous disiez au niveau de la coopération internationale, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, c'est important qu'au niveau suisse, qu'au niveau régional, il y ait des législations, qu'il y ait des autorités de protection des données. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, tout est interconnecté. On est dans le monde de la globalisation. Donc, il faut pouvoir avoir aussi, au niveau mondial, une convention universelle en matière de protection des données et avoir une coordination des autorités de protection des données, si ce n'est la création d'une agence mondiale de la protection des données. Alors, c'est un processus qui est en cours. La Suisse a été très active à ce niveau-là. Nous avons lancé le mouvement il y a déjà quelques années lors d'une conférence internationale à Montreux avec une déclaration qui demande la mise en place d'une telle convention. Et la convention du Conseil de l'Europe en matière de protection des données est une convention ouverte, c'est-à-dire c'est une convention qui n'est pas réservée aux seuls membres du Conseil de l'Europe, mais qui permet à des États tiers d'y adhérer. Et donc c'est la première étape en fait vers une convention universelle. Et maintenant, petit à petit, on voit d'autres États hors Europe qui adhèrent à cette convention ou qui souhaitent y adhérer. Donc là, il y a des perspectives, mais de nouveau, ça va certainement prendre un certain nombre d'années jusqu'à qu'on ait véritablement une couverture juridique au niveau mondial.
Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la... très rapidement par rapport à la première partie de votre question, sur le fait, finalement, est-ce qu'on est un peu obligé d'accepter les conditions? Ah, déjà, la réponse est non, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Facebook. Alors, pour un individu, le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui, finalement, mettent la balance du côté du service et finalement négligent ça. Donc il n'y a pas l'effet de masse nécessaire aussi au niveau des individus pour que ça soit vraiment un enjeu important. Il y a des gens qui sont concernés, il y a des gens qui travaillent dessus, mais c'est finalement, bon, je vois aussi avec les étudiants autour de moi, quand on leur pose la question, ce n'est pas quelque chose qui a l'air de les préoccuper énormément. Et ça, tant que ça ne sera pas quelque chose qui sera un enjeu concret pour les gens. Par contre, là où ça préoccupe beaucoup les gens, c'est dans le monde des entreprises. Et principalement donc, dans mon domaine, par exemple, le système de stockage de données sur le cloud pour les entreprises. Ben là, il y a les gens sont vraiment concernés et il y a un marché d'ailleurs qui se crée là-dessus. Il y a des hébergements de cloud en Suisse qui vendent plus cher leurs services parce que c'est en Suisse. Or, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité, etc. Mais il y a aussi le fait que il n'y a pas des lois comme le Patriot Act, etc., qui peuvent venir voir vos données, où il n'y a pas d'entreprise derrière sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc il y a un mouvement au niveau des entreprises pour essayer de se replier sur des choses où on a un peu de contrôle. Ils ont moins tendance à vouloir accepter de facto des conditions qu'ils pourraient trouver abusives. Donc peut-être que s'il faudrait que ça arrive au niveau du grand public, ça prend du temps, mais chez les entreprises, c'est déjà amorcé.
Oui, j'ai une question ouverte concernant les moteurs informatiques de profilage ou de joindre des données. Pour moi, c'est un peu un nuage que je ne comprends pas très bien. La seule chose que je sais, c'est que le nombre d'individus qui analysent les données avec leur cerveau est certainement de loin insuffisant par rapport au nombre de données qui entrent. Donc, il doit y avoir une première partie qui est purement informatique. J'aimerais comprendre un tout petit peu quelques mots-clés. Merci.
Merci. Les secrets du big data, alors. Oui. Allons-y.
Alors, il y a certainement pas des gens qui vont aller regarder les informations une par une, ça c'est clair. La masse de données qu'on parle, plus que l'intégralité des livres qui ont été produits dans l'histoire de l'humanité pour mettre ce qui est généré en une semaine de temps actuellement. Non, c'est simplement ce qu'on appelle joindre des données de sources différentes. C'est simplement des opérations qui sont faites, qui sont des classiques des bases de données en informatique. On a des sources d'informations d'un côté qui, par exemple, sont estampillées avec la personne en question, et des sources de notre côté. Et la somme des deux est plus intéressante que chaque donnée prise individuellement. Qu'on sache ce que vous soyez à tel ou tel endroit, dans telle ou telle zone, avec votre Natel au fur et à mesure du temps, bon, c'est intéressant, certes. Alors qu'on sache que vous avez acheté à la Migros avec votre carte Cumulus, ou à Coop avec les autres, c'est aussi intéressant. Mais si j'arrive à joindre les deux, je peux faire des choses beaucoup plus intéressantes, parce que je peux savoir et où vous vous trouvez, et vous mettre des publicités ciblées par rapport à l'endroit géographique où vous êtes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Si on prend sur les données qui sont récoltées sur Internet, c'est pour faire du profilage par rapport aux habitudes des gens qui sont du même type que vous. C'est aussi joindre les gens qui sont de même type, faire du profilage de groupe, si on veut. Tout simplement, ça, c'est des opérations de base de données. On a des grandes, grandes quantités de données, et on essaye de trouver les similarités entre les gens pour essayer de prédire, avec une probabilité plus élevée qu'un choix aléatoire, quel va être le comportement de quelqu'un. Les opérations individuelles sur chacune des données, elles sont relativement simples. C'est une chose qu'on va apprendre à nos étudiants en base de données en première année. Mais par contre, la masse de données sur laquelle elles s'appliquent sont gigantesques. C'est vraiment le changement. Il n'y a pas de changement de paradigme sur ce qu'on sait faire. Les opérations elles-mêmes, votre banque dans les années 70 les faisait déjà avec les gros calculateurs de l'époque, sauf que maintenant on le fait avec des quantités de données qui sont sans commune mesure. C'est ça, le gros changement d'échelle plus que changement de paradigme.
Oui, alors si je résume quand même très grossièrement un peu tout ce qui vient de nous être dit, c'est en gros, rien n'est sûr, mais concrètement, ça n'a pas beaucoup d'impact dans la vie quotidienne concrète de la plupart des gens. Moi, il y a un aspect quand même qui me pose problème et où je pense que c'est un enjeu peut-être qui est en train de se développer. C'est tout ce qui a trait au vote électronique, parce qu'actuellement, ben voilà, on voit que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais finalement, à vous entendre, même si on a des algorithmes qui garantissent à un certain donné l'intégrité des données, le fait, la confidentialité des données, tout ce qui est en amont et en aval, finalement, ne peut pas être garanti. Et dès le moment où, par un processus de captation ou de corruption de données, on arrive du coup à pouvoir modifier des résultats de, bah, finalement, du fonctionnement des institutions, là, je pense à un problème beaucoup plus concret. Et du coup, bah, je profite d'avoir tous ces experts autour de la table pour savoir finalement qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tous les processus actuellement en test toujours. On parle toujours de test de vote électronique concluant. Quelle est votre vision là-dessus? Quels sont les risques? Est-ce qu'actuellement, en Suisse, les systèmes de vote électronique qu'on a, est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce que... Enfin, voilà, quelle est la situation?
Allez-y.
Oui, la question du vote électronique est un problème assez chaud et assez délicat. Un des grands défis, et qui, à ma connaissance, n'a toujours pas été résolu, c'est le terminal de l'utilisateur. C'est-à-dire, pour faire un vote électronique sûr, entre guillemets, même si on arrive à certifier tout ce qui se passe après et par derrière, on doit quand même supposer que l'ordinateur du citoyen est un environnement, j'ai envie de dire, dans lequel on peut avoir confiance. Et là, pour moi, c'est une hypothèse qui ne peut pas être faite. Alors, tant que les enjeux ne sont pas très grands, tant qu'on fait des tests à petite échelle, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir en fait faire que le système ne fonctionne pas. Au moment où ça se généralise vraiment, où je dirais 90% de la population vote de façon électronique, imaginons même avec un système qui soit uniforme, à ce moment-là, on peut commencer d'avoir des raisons de créer, par exemple, un malware qui permette de prendre contrôle d'un grand nombre d'ordinateurs de citoyens et puis de faire que, par exemple, 3% des votes sont changés de façon aléatoire ou bien, disons, sont modifiés en faveur de celui qui paierait le plus. Donc on pourrait commencer d'avoir un modèle économique. C'est vrai que tant que ça touche que quelques cantons et que c'est qu'une petite proportion de la population qui vote de cette manière, le risque qu'il y ait des malwares spécialisés reste faible. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut rester vigilant. Personnellement, je ne pense pas que les systèmes sont suffisamment fiables, suffisamment matures actuellement pour envisager le vote électronique à grande échelle.
Je suis complètement d'accord avec vous, c'est clair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la non-fiabilité du terminal utilisateur, vous avez sûrement une partie d'entre vous utilise le e-banking de votre banque, vous avez, c'est toujours quelque chose qui est à côté, qui n'est pas lié, le composant technique qui va générer le code pour se connecter n'est pas lié en aucune façon, ni logiciel ni matériel, avec votre ordinateur. Alors, ce n'est pas 100% fiable. La petite carte pourra être prise, changée par une autre, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus fiable parce que vous n'avez pas de connexion Internet sur le petit boîtier qui est fourni par... Moi, je suis à l'UBS, mais ça peut être les autres aussi. Mais pour le vote électronique, ça serait quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vote sur le boîtier, ça vous donne un code. On peut imaginer des solutions techniques, mais on repousse toujours le problème un peu plus loin. Parce que dès qu'il y a effectivement des enjeux derrière, on peut modifier l'objet technique pour que... Même si la chaîne est sécurisée de bout en bout, il y a toujours un petit bout au début et un petit bout à la fin qui peut être modifié. Et là, c'est vrai qu'il y a un des enjeux importants.
Il y a aussi une... Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur, allez-y. Attendez juste le micro. Merci.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là, c'est que vous dites pour payer... le e-banking, par exemple, c'est fiable et c'est vraiment sécurisé, et vous proposez une situation plus ou moins semblable pour le vote, et là vous dites que c'est pas assez sécurisé.
Alors, donc là, je me suis mal exprimé, je pense que justement je disais que j'ai pas dit que le e-banking est fiable à 100%, c'est simplement que je pense que les banques ont intérêt à proposer ces systèmes-là, parce que même si ça pourrait être utilisé à mauvais escient de temps en temps, le positif l'emporte de toute façon. Là, ce qui se passe, c'est que pour éviter d'avoir le point d'attaque qui est le terminal de l'utilisateur, votre ordinateur, votre smartphone. On va déplacer le début de la chaîne de sécurité sur un composant externe qui est cette petite appareil qui ressemble à une calculette avec une smart card dedans. Et je disais simplement que quand les enjeux sont plus grands que simplement essayer de faire un paiement à l'insu de quelqu'un, par exemple pour le vote, cette solution-là, elle ne sera pas forcément adéquate parce qu'on pourrait imaginer que justement ces petites smart cards soient remplacées à l'insu des gens, etc. Je dis simplement que le problème, il est plus important avec le vote électronique qu'avec le e-banking. Plutôt l'inverse de ce que vous...
Et je voudrais dire aussi qu'on a une différence fondamentale entre e-banking et e-voting, parce que pour l'e-banking, vous faites la première chose que vous faites, vous faites une identification avec la banque. Et pour voter, on veut avoir confidentialité aussi. Donc, je veux avoir une preuve que mon vote a été compté correctement. Et peut-être que l'État veut avoir une preuve que j'ai voté ou non. Mais on ne veut pas avoir un connect entre moi et les votes. Donc, il est un peu, je veux seulement dire qu'il est un peu différent, et donc les méthodes doivent être un peu différentes aussi pour respecter sa peculiarité de le vote.
Il y a monsieur, et puis après je vous passe.
J'aimerais juste donner une illustration de ce que monsieur Jacques Schiffel a dit tout à l'heure, et puis faire un petit commentaire. Il y a quelques années, une de mes belles-filles a fait une promenade dans la forêt avec sa vieille tante du côté de Delémont. Et à un moment donné, sa vieille tante a perdu connaissance. Et quand elle gisait là dans la forêt, ma belle-fille avait son attelle sur elle. Elle a fait le 144 pour demander une ambulance. Et puis elle a voulu expliquer aux ambulanciers où elle se trouvait. Et ils lui ont dit « Oh, pas besoin, on voit très bien où vous êtes, sous les rochers, etc. » Enfin, quand l'ambulance est venue, la tente s'était déjà reprise et puis elle allait déjà mieux. Quoi. Un autre commentaire, c'est du point de vue psychologique. Il semble que l'Internet change nos comportements. Autrefois, quand on avait un problème, on s'adressait à un ami ou à un voisin pour le résoudre. Aujourd'hui, on tape sur Internet et on trouve la réponse. Et des psychologues, j'ai lu ça dans le Scientific American, ont fait un test avec des gens en leur posant des questions. Et les gens qui ont trouvé la réponse sur Internet étaient plus fiers que ceux qui avaient trouvé la réponse en réfléchissant. Et ils présentaient la réponse comme venant d'eux-mêmes.
Alors, là, on est dans la thématique de la recherche d'informations. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, sur le comportement psychologique. On n'a pas de psychologue dans le panel, là, mais est-ce que quelqu'un a... Bon, peut-être sur les comportements, effectivement, qu'on a tout de suite recours à Internet, alors que peut-être, en s'adressant à quelqu'un de visu, on aurait plus vite une réponse, et ce qui éviterait de transmettre des données, et donc d'alimenter encore le réseau en information.
Je ne suis pas du tout un spécialiste au niveau psychologique. Et puis, personnellement, c'est aussi ce que je fais. Quand j'ai une question, d'abord, je vais regarder sur Internet. Et puis, c'est une source incroyable d'informations. L'exemple que vous avez donné avec votre fille montre que les questions, justement, de localisation, toutes ces traces qu'on laisse dans la société de l'information, elles peuvent aussi parfois être positives. On montre aujourd'hui certains risques. Mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des applications tout à fait positives. Simplement, par exemple, quand vous allez, pour donner un exemple aussi de profilage qui peut des fois être agréable, vous allez par exemple sur iTunes, vous achetez des musiques, et puis ensuite iTunes vous dira, ben voilà, probablement vous aimeriez aussi cette musique. Et puis des fois, ça permet de découvrir des choses qui sont chouettes, quoi. J'entends, il faut le reconnaître. Donc il y a tout un aspect aussi positif. C'est simplement, ces techniques peuvent être utilisées soit dans un sens, soit dans l'autre. Maintenant, au niveau des recherches, je pense que de plus en plus, la première réaction, ben, c'est justement d'aller sur Internet, d'aller trouver de l'information. Et c'est vrai que quand on le fait, on en retire quelque chose, on en retire de nombreuses réponses. Si on prend par exemple Wikipédia, on considère maintenant qu'il y a un niveau de fiabilité, très souvent, pas pour tout, mais très souvent dans Wikipédia, qui correspond quasiment, à, si ce n'est des fois même meilleur, à certaines encyclopédies traditionnelles. Donc c'est vrai que sur Internet, il faut quand même se poser la question des sources, mais on peut avoir des endroits où les sources sont bonnes. Mais chaque fois, on laisse des traces. Et par exemple, imaginez quelqu'un qui, tout d'un coup, apprend qu'il est malade, qu'il a une maladie. C'est tentant de se dire, eh ben voilà, je vais aller chercher sur Internet. Je mets des mots-clés. Et si on fait plusieurs recherches par rapport à ces mots-clés, eh bien, ça ne serait pas du tout étonnant que certains systèmes se disent, tiens, pourquoi cette personne fait des recherches sur cette maladie ? Alors, dans le meilleur des cas, vous allez recevoir peut-être des emails qui vous proposent des médicaments pour cette maladie, qui vous proposent... Et puis, dans le pire des cas, eh bien, votre assurance maladie vous refusera peut-être une assurance complémentaire sans vous donner vraiment les raisons.
Oui. Bon, je dis pour eux, dans ce cadre-là, justement, le problème, si on repart de votre exemple YouTube, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est que YouTube ou Google, qui est derrière, soit clair sur ce qu'il fait, comment il arrive à définir peut-être le fait que je vais aimer tel et tel type de musique. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, qu'il me donne la possibilité de lui dire, écoute, moi, je ne veux rien en savoir. Je viens acheter une musique sur YouTube. Le reste, je ne veux pas le recevoir. Il faut avoir cette possibilité. Ce qui arrive, c'est, pour reprendre cet exemple de consommation, de maladie citée. Je vous donne un autre exemple pervers. C'est une jeune fille qui était enceinte. Elle ne le savait pas, mais elle avait des comportements d'achat sur Internet qui ont fait que on a établi par derrière, pu établir son profil, et tout d'un coup, elle a reçu un mail, enfin, c'est même pas elle qui l'a reçu, c'est ses parents, lui suggérant d'acheter tel et tel produit, en lui disant que, puisqu'elle était enceinte et qu'elle allait bien. Et les parents ont découvert ça, et elle l'a découvert. Donc là, on voit que ce sont des effets aussi pervers du système. Par l'analyse des comportements d'achat ou de consultation que l'on fait. Et lorsque vous disiez finalement, il ne se passe rien sur nos vies, oui et non. Le problème aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on répertorie, on établit des profils pour influencer nos comportements, pour influencer nos décisions quand on ne prend pas des décisions à notre place. Récemment, j'étais dans une conférence, il y a un professeur d'informatique polonais qui disait on est au point où aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui va vous dire ce que vous devez faire et qui va vous dire que de toute façon, lui sait mieux que vous ce que vous avez à faire. Donc le libre arbitre de l'individu devient de plus en plus limité par le fait justement de l'analyse de comportement. Je vous donne un exemple qui est réel. C'est un informaticien qui avait développé des algorithmes sur la base du data mining et il travaillait pour une banque. Et il avait développé un algorithme qui arrivait à prédire la mort des gens, simplement par l'analyse des transactions que faisaient les clients de la banque. Et quand il a découvert ça, il a pris peur, il a dit non, ça va trop loin, je ne peux pas continuer à utiliser cet algorithme. Et il a arrêté, il est allé voir son directeur de banque et il lui a dit, écoute, moi, je ne peux pas. Et heureusement, là, le banquier en question a dit, moi, non, ça on ne va pas faire, ça, on ne veut pas suivre. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut, par la prédiction, déjà déterminer si oui ou non vous allez avoir, vous êtes en situation, par exemple, de divorce, si vous êtes susceptible d'avoir telle ou telle maladie, simplement par des comportements, par des types d'achats que vous faites ou par des types de consultations que vous faites sur Internet.
Oui.
Moi, je suis d'accord sur l'inférence statistique, on peut effectivement déterminer les choses. C'est simplement, vous avez des grandes masses de données, vous avez des relations de causalité, alors pas forcément directes, mais qui peuvent être indirectes ou simplement des relations probabilistes entre des éléments, puis vous pouvez en déterminer d'autres. Alors, ça, c'est vrai, c'est la masse des données qui fait qu'on peut utiliser ça à des échelles qu'on n'aurait pas imaginées avant, mais ça se faisait déjà avant. Par contre, je ne souscris pas à la vision du fait que les algorithmes de prédiction, qui sont principalement utilisés pour faire des choix au niveau du business, contrôlent nos vies. Ça, c'est un petit peu. Moi, j'ai encore l'application des CFF qui m'a fait acheter un billet de train vers là où je ne voulais pas aller parce que les gens de mon type allaient plutôt là-bas. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient au courant de ce qu'on fait avec leurs données. C'est quelque chose d'important. Il y a un grand travail d'éducation populaire là-dessus, qui est la responsabilité des gens qui travaillent dans ces domaines-là, la responsabilité des entreprises aussi. On ne parle pas de services publics quand on parle de Google, ça qui est important aussi. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes obligations. Vous avez le droit de quitter, ils ont le droit de vous dire bah, si vous n'êtes pas content de nos conditions, vous pouvez simplement aller voir ailleurs. Il existe peu, mais on peut aller voir ailleurs. Mais de là à dire que nos vies sont contrôlées, non, pas forcément, pas encore.
Voilà. Encore une remarque, puis encore une dernière question dans la salle.
J'aimerais revenir sur cette question du choix. Si on reprend une des questions qui avait été posée tout à l'heure par rapport à Facebook, c'est vrai qu'on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Alors, la réponse toute simple qui nous vient à l'esprit, c'est oui, on a le choix. Mais maintenant, mettons-nous à la place d'un jeune. Un jeune qui est dans la tranche d'âge, disons 14 à 20 ans, il peut ne pas aller sur Facebook. Mais s'il va passer, donc s'il se dit, bon voilà, si je vais sur Facebook, je vais laisser des traces qui pourront peut-être se retourner contre moi, donc je préfère ne pas y aller. Ok. S'il n'y va pas, il laisse aussi des traces en décidant de ne pas y aller. L'absence, en fait, de présence. Et le fait qu'un jeune de 14 à 20 ans ne soit pas sur Facebook, ça ne prouve pas qu'il est asocial, ça ne prouve pas qu'il est peut-être déséquilibré, qu'il a des problèmes de comportement. Mais disons, ça pourrait favoriser un tel comportement. Et le simple fait de ne pas y aller, c'est quelque chose qui a aussi des incidences et qui peut, à travers ces analyses automatiques, mettre ce jeune dans une catégorie qui ne lui correspond pas. Donc le choix, c'est assez pervers, mais le choix, en fait, il n'est pas aussi clair qu'on pourrait le penser.
Oui, je dirais même que lorsqu'on entend le directeur de Google déclarer que celui qui ne va pas sur Internet, qui n'utilise pas les différents services à disposition, c'est une personne qui, par définition, est suspecte. Donc, on voit bien que là, il y a quand même une pression qui existe. Aujourd'hui, pratiquement, on ne peut pas se passer de l'Internet. Et quand on dit qu'on a le choix des produits, que Google peut nous dire aller voir ailleurs, Google ne va pas nous le dire parce que déjà, il domine le marché. Forcément qu'on va retomber un jour ou l'autre sur un produit Google, et lui a tout intérêt à nous garder comme client, même si on n'est pas d'accord avec sa politique. Donc aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est ce renversement de la présomption d'innocence vers la présomption de culpabilité. Aujourd'hui, on est par définition suspect. Et l'affaire Snowden le révèle bien, puisque maintenant, tout un chacun est susceptible d'avoir été écouté, indépendamment de sa fonction, de son rôle dans la société. C'est bien qu'à quelque part, on se méfie de nous. Donc, il faut peut-être renverser cela pour restaurer la confiance dans les systèmes et aussi dans les individus.
Oui, allez-y. Alors, c'est la dernière question.
Ouais. Alors, ma question, juste, c'est pour rester dans le monde économique. c'est par rapport à l'utilisation de données par des entreprises commerciales, de données qui sont issues de registres publics, qui indépendamment les unes des autres sont justement anodines, enfin qui n'ont pas d'importance. Par exemple, votre adresse, votre nom, votre numéro de téléphone, éventuellement l'endroit où vous habitez, et qui, une fois mises en commun, sont des atteintes plutôt fortes à votre personnalité, et puis qui permettent d'établir des profils justement des personnes, enfin même pas des profils économiques, des profils de personnalité. Je pense notamment à Money House, qui est un site qui justement permet, qui regroupe votre nom, votre prénom, votre nom de famille, qui, grâce à Google justement, permet même de vous géolocaliser. J'aimerais savoir comment justement le préposer à la protection des données. Comment est-ce que vous agissez, vous, personnellement, contre des atteintes de ce type ? Et quelle solution est-ce que vous pouvez proposer ? Sachant que la loi sur la protection des données, justement, elle oblige normalement les privés qui atteignent à ce point les autres particuliers à les avertir, justement, de cette atteinte, de la possession de ces informations. Alors qu'en l'occurrence, Money House n'a... Sauf erreur, n'a pas prévenu tous ces gens qu'ils ont des informations, enfin, qu'ils utilisent des informations publiques sur eux et qui font des croisements de données. Donc, voilà. Je suis désolé.
Bon, sur le cas précis, Money House, c'est un cas qui, effectivement, sur lequel on est intervenu, puisque cette entreprise ne respectait pas, en fait, le droit des personnes de ne pas figurer dans un annuaire. Et ce que l'on avait constaté, c'est que ils avaient simplement remis en ligne des personnes qui avaient demandé à ne pas figurer dans les annuaires en récoltant ces informations de différentes sources. Donc là, on leur a demandé de respecter ce droit de blocage. Ils ont pris un certain nombre de mesures. C'est encore de loin pas satisfaisant. On continue d'ailleurs à enquêter sur cette entreprise pour clarifier les faits et amener à ce qu'ils respectent la législation. Mais ça, c'est un cas parmi plusieurs cas. Le problème d'une autorité comme la nôtre, c'est qu'on est très vite limité par nos ressources. Donc on agit de manière ciblée par rapport à des grosses violations qui nous sont dénoncées. Mais on sait très bien que lorsqu'on a réglé un problème, si je prends le Money House, il y a plein de petits Money House en Suisse qui font la même chose et sur lesquels il faudrait s'atteler. Donc ça, c'est un aspect de notre travail, c'est le contrôle. Mais de l'autre côté, il faut beaucoup travailler sur l'information et sur la sensibilisation des individus, mais aussi des entreprises, des administrations, pour que petit à petit, elles comprennent qu'elles ont une responsabilité en termes de respect des droits fondamentaux des individus qui, ici en Suisse, comme ailleurs d'ailleurs.
Voilà, alors, l'horloge ayant tourné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore à la table ajouter quelque chose ? Sinon, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce café scientifique. Je remercie en particulier nos intervenants pour leurs explications et votre participation. Et je vous donne, quant à moi, rendez-vous en mars, le 19 mars. On abordera un sujet juridique, divorce, on y soit qui mal y pense, avec inégalité de traitement homme-femme face au divorce. Donc rendez-vous le mercredi 19 mars pour débattre de cette question sociale. Merci beaucoup et bonne soirée.